du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour. Si nous ne revoyons pas de toute urgence notre rapport à la nature, nous vivrons dans une ère de confinement chronique. Ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour l'humanité. Cette affirmation est signée Jero Endos, qui dirige le Centre de recherche en santé publique de l'Université Massey à Wellington, en Nouvelle-Zélande. C'est l'un des 62 scientifiques interrogés par la journaliste Marie-Monique Robin, qui vient de publier La fabrique des pandémies aux éditions de La Découverte. Car oui, nous l'avons fabriquée, cette pandémie de la Covid-19, qui paralyse une grande partie de l'humanité. Nous coupons les forêts, nous détraquons le climat, nous n'arrêtons pas de voyager et de déplacer d'un bout à l'autre de la planète des marchandises et des animaux. Les scientifiques interrogés par Marie-Monique Robin sont unanimes. Cette pandémie est un échec collectif. Les écologues de la santé savaient, ils ont tiré le signal d'alarme il y a déjà des années, mais ils n'ont pas été écoutés. Alors oui, aujourd'hui, c'est la course au vaccin, mais est-ce que pour une fois, les causes profondes de cette pandémie seront analysées ? Notre rapport à la biodiversité, c'est là qu'il faut chercher.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Marie-Monique Robin.
Bonjour.
Vous venez donc de publier La fabrique des pandémies, sous-titre « Préserver la biodiversité, un impératif de santé planétaire ». C'est aux éditions de La Découverte. Alors c'est le résultat des entretiens que vous avez menés avec 62 chercheurs du monde entier entre mai et juillet 2020. C'est un livre que je qualifierais de salubrité publique parce qu'en fait vous mettez à la portée du lecteur des connaissances qui restent bien souvent dans les revues pointues et spécialisées des scientifiques. Et vous avez d'ailleurs eu l'idée de ce livre en lisant un article, c'était dans le New York Times, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y a tout juste un an, en fait, qui disait « We made it », c'est nous qui l'avons faite, cette pandémie. C'était signé d'un journaliste scientifique américain et je me suis dit « Tiens, pourquoi il dit ça ?» Bon. Et j'ai commencé à chercher. Et voilà comment je suis tombée notamment sur… Serge Morand, un scientifique qui travaille pour le CIRAD et qui est basé en Thaïlande, qui est un écologue de la santé, donc, hein, parasitologue, enfin, il a plusieurs casquettes, mais celle qu'il revendique, c'est l'écologie de la santé, disease ecology en anglais, n'est-ce pas ? Voilà, et qui m'a dit, bah, super que vous m'appeliez, je connaissais votre travail sur Monsanto et je rêvais que vous fassiez la même chose, c'est-à-dire que vous rapprochiez tous ces scientifiques qui, comme moi, dans le monde, tire la sonnette d'alarme, comme vous venez de dire, et qui ne sont pas entendus. Voilà.
Alors Serge Morand, qui, comme les autres scientifiques interrogés dans votre livre, est en colère. On l'écoute.
Ça faisait quand même de 20 ans, ou même 30 ans déjà, que des épidémiologistes nous alertaient là-dessus. Ça faisait aussi des années qu'en tant qu'écologiste, on travaillait là-dessus. Mais pas écouter, sans arrêt, en fait, on revient toujours sur les mêmes séquences. C'est-à-dire que dès qu'on a une crise, ben, finalement, on va dire « ça va changer ». Mais non, en fait, la crise, qu'est-ce que c'est ? Simplement une récomposition. Mais regardons toutes les crises sanitaires qu'il y a eu jusqu'à présent. Quelle est en fait la séquence qui se met en place ? D'abord, on fait de l'isolement, de la quarantaine, alors quand c'est des animaux, on fait de l'abattage, et après, ça permet d'augmenter la biosurveillance et la biosécurité. Finalement, on est en train de mettre en place le même schéma pour les humains. Et puis, à partir de tout ça, on commence à faire des tas de choses, des policy papers, on va venir se réunir sans arrêt, on va faire des beaux discours, quoi. On a fait d'ailleurs un discours à Metz juste en 2019, hein, par les différents chefs d'État de l'Union européenne avec le rapport de l'IPBES, mais pour faire rien du tout. Et puis finalement, un abattement, mais un espoir, c'est-à-dire que je fais partie de la génération des baby boomers, c'est-à-dire celle finalement qui avait tout pour pouvoir faire quelque chose, mais qui finalement a laissé cette planète en déshérence complète. Alors on a une nouvelle génération qui est en poste et qui finalement n'a jamais été autant égoïste et de travailler que pour elle-même. Mais heureusement, par contre, j'ai espoir parce que je vois toute une jeunesse, et notamment je vois des nouveaux étudiants qui sont intelligents, qui sont sensibles, donc il faut leur donner le monde enfin et en fait leur laisser prendre en main la destinée du monde qui est leur.
Alors, un peu d'optimisme quand même hein, sur la jeunesse des chercheurs qui arrive, une nouvelle génération qui va peut-être être plus entendue, parce que c'est ce qui revient quand même vraiment dans votre livre, Marie-Monique Robin, c'est que les scientifiques sont déprimés, écœurés, en colère.
Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'était même très frappant, parce que comme je les ai interviewés par Skype hein, ou par Zoom, chacun confiné parfois dans leur garage, enfin, vous voyez, comme tout le monde, quoi, aux quatre coins du monde. Je les voyais comme une petite vignette sur mon écran et très souvent je commençais, alors souvent en anglais mais c'était aussi en espagnol, en allemand, enfin comment ça va, pas bien, bien sûr pas bien, parce que ça fait au moins 20 ans qu'ils disent le meilleur antidote pour se protéger contre une prochaine pandémie, c'est la protection de la biodiversité. Mais ils disent pas ça comme ça, c'est-à-dire d'accord, tout le monde est unanime pour dire que c'est triste que les pandas disparaissent, que les oiseaux disparaissent et les insectes. Mais ce n'est pas uniquement ça. Ils ont mis au jour des mécanismes, véritablement, qui montrent que la biodiversité protège la santé. Mais ils ne sont pas entendus. Et du coup, ils sont inquiets parce que ils voient bien ce qui se passe. Serge vient de dire, on est à fond sur le vaccin, un médicament, bon, c'est tout à fait légitime, ok. Mais c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas véritablement aux causes qui ont présidé à l'émergence de ce petit coronavirus quelque part d'une chauve-souris qui a transité, on ne sait toujours pas comment d'ailleurs, par un autre intermédiaire avant d'atteindre les humains. Et si on ne fait pas ça, eh bien, il y en a d'autres qui vont arriver derrière, d'autres pandémies. Et donc, comme vous l'avez dit au début, en citant le scientifique de Nouvelle-Zélande, eh bien, il pense que nous sommes entrés dans une ère de confinement chronique. Voilà. Et ça, c'est quand même pas une très bonne nouvelle.
Alors, on va revenir évidemment sur les causes et on va revenir sur les liens entre préservation de la biodiversité et préservation de la santé humaine. Mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que vous dites dans la première partie de votre livre, finalement. C'est ce qui s'est passé depuis cette fameuse conférence qui s'est déroulée à Washington en 1989 sur les virus émergents. Une première conférence où tout a été dit et où rien n'a été entendu. Pourquoi ? Notamment parce qu'il y a eu la fin de la guerre froide. Et il y a eu du coup une autre préhension, j'ai envie de dire, des virus. On est parti sur la logique du bioterrorisme et tout ça, et pas du tout le lien entre santé et environnement.
Oui, tout à fait. Donc, il faut rappeler un petit peu le contexte général. En 1980, l'Organisation mondiale de la santé déclare la variole éradiquée. C'est vraiment, voilà, on se dit c'est fini, les maladies infectieuses, c'est fini. Bon, on va un petit peu vite, parce qu'à l'époque, il y a encore le paludisme, il y a encore la fièvre jaune, enfin, voilà. Et en Occident, en tout cas, on ferme même les départements de recherche sur les maladies infectieuses, hein, qui disparaissent carrément. Hein. Et patatras, apparaît, bon, la légionellose, elle n'est pas très connue, mais enfin, Ebola, 1976, qui était déjà quand même un coup de semonce en Afrique. Bon, à l'époque, on se dit, ça n'est que l'Afrique, bon, voilà, c'est pas trop grave, enfin voilà. Le sida, qui est quand même une très grande maladie infectieuse d'origine zoonotique, quand même. Hein. Et puis ensuite, c'est un déferlement, quoi, parce que les données officielles, donc c'était que jusqu'au début des années 1970, il y avait en gros une émergence de nouvelles maladies infectieuses tous les 15 ans. On mettait là-dedans aussi les maladies qui sont liées à la résistance aux antibiotiques. Hein. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 1 à 5 nouvelles maladies qui émergent tous les ans. Alors, c'est vrai que dans les années 1980, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer quelqu'un comme Stephen Morse, qui est donc un épidémiologiste de l'Université Columbia, qui s'est dit non, il ne faut pas, ce qu'il appelle la complacency, hein, il ne faut pas s'auto-satisfaire, là, les maladies infectieuses sont toujours là au coin de la rue, hein, et il faut faire quelque chose. Donc il a organisé cette conférence dont vous venez de parler à Washington en 1989, où déjà il réunit 200 scientifiques, etc., qui disent déjà les causes, hein, qui disent c'est les actions anthropiques, comme on dit, les actions humaines, en tout premier lieu la déforestation, n'est-ce pas, ensuite l'élevage industriel, la globalisation qui fait que ces nouveaux virus émergents peuvent se balader d'un bout à l'autre de la planète. Le climat, déjà, hein, c'est dit, en 1989, et ça s'appelle donc la conférence sur les virus émergents. Et voilà. Et ensuite, il y a ce que vous avez dit, que j'ai résumé dans le premier chapitre, parce que c'est très important de comprendre qu'on a vraiment raté une occasion, quoi, d'agir plus tôt, quoi. Comme pour le climat, hein, parce que tout est lié, hein, évidemment. Eh bien, en fait, l'Union soviétique disparaît. Les États-Unis n'ont plus d'ennemis officiels, n'est-ce pas ? Et donc, on va s'orienter progressivement vers une nouvelle théorie qui est ce qu'on appelle la preparedness en anglais. Alors, c'est très difficile à traduire, hein, c'est l'action de se préparer à des dangers qui peuvent être de toute nature, aussi bien des cataclysmes naturels, mais aussi une guerre nucléaire, parce qu'à l'origine de la preparedness, c'est ça en fait, ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est donner à l'État américain des outils pour pouvoir se mobiliser contre un ennemi, et puis notamment avec la guerre froide contre une guerre nucléaire potentielle. Et là, on est dans le domaine de la sécurité nationale, on n'est pas dans la médecine, hein, vous voyez. Mais petit à petit, avec l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, il y aura un glissement qui va s'opérer et qui va faire qu'on va mettre dans ce pot commun, hein, tous ces dangers qui pourraient arriver, eh bien, le risque sanitaire et le risque infectieux, mais qui sont vus à travers le prisme, comme vous avez dit, du bioterrorisme. Alors, il y a différents événements, hein, qui vont accentuer cette transition. On se souvient de l'attentat dans le métro à Tokyo avec par une secte qui avait utilisé du gaz sarin. Et puis, il y a le délire à l'époque de Bush qui pensait que Saddam Hussein allait mener une guerre, vous savez, biologique contre le monde. Les lettres à l'anthrax après les attentats contre les tours jumelles de New York. Mais là, on va voir comment petit à petit, on va rentrer dans ce qu'on appelle le scénario du pire. Hein. C'est-à-dire qu'on passe de la prévention qui consistait à se dire, bon voilà, il y a des maladies qui nous menacent, qu'on connaît, donc voilà ce qu'on peut faire. On peut faire des campagnes de vaccination, on peut développer les services publics, je ne sais pas, voilà, l'hôpital, etc. Au scénario du pire, c'est-à-dire qu'on va se préparer contre des maladies qui n'existent pas, encore, parce qu'elles sont censées émerger un jour, dont on ne sait pas ce qu'elles sont. Et tout ça va être intégré dans une conception globale de la sécurité américaine, et l'Europe va suivre. Et du coup, on va oublier tout ce qui avait justement été signalé pendant la conférence de Washington de 1989, c'est que les nouvelles maladies émergentes, elles sont provoquées par l'activité humaine. Et ça, c'est assez étonnant, et c'est ce qui s'est passé donc il y a 50 ans. Voilà.
Voilà, et depuis, du coup, on a mis tout ça sous le tapis et aujourd'hui, on se le prend en pleine figure. Alors, c'est donc notre relation avec le reste du monde vivant qu'il faut revoir. Nous allons en parler juste après un moment passé avec l'artiste ghanéen Kofi Kinahata qui chante, évidemment, coronavirus.
Coronavirus, COVID-19, Bifindagur Krau, Oyeho, Waine. Fever never bore, abre, oh, do, and wash it, and to send, and to taste, and to me, diddy. I want running in your coat, and to me, yawmo, and feeling dizzy. Oh, papa, every baby, I say, baby, ah, it's your way, cuckoo, nipa. You're a way, cuckoo, you man, African, sudda, grass, and mapa. She, soldier, sudo, corona, lawyer, oh, sudo, corona. Malam suro corona, wala wo paste yo suro corona. Meye wu, maya tito biya suro corona. Meye wo, maya tiye ina ye suro corona. Ti, usu suro corona, sa wu no smak si se luko kroma. Mama wu refili tu mi te social distance en wepo nano. Olo wo safe se mina ye, an sanitizer do fe bife ye. Man tam kwe kwe. Nishia na trefi, jai. Sisa di yenchi ma, aha. Yenchi ma pone sheshi ya, aha. Yenchi ya pone chechi ya. Tijai kasa tinti na chweni tete ya. Kofi, nama ye u, na ya tito biya suro corona. Me ye wo, na ya tito ye ina ye suro corona. Jai, asama kasi Frank Insido. One tap portion, one for now, cool studio. Man for we vessel and smuggling ni pa magana ma banaka home and shindy do. Hey, yes, you see na shay did ye the fruit exercise ne punsuno on se corona. Yen musuni PD, yen rest PD, yen ma fan for filly, yenda, and ye be a men pui, shedimwa, na friend na messin na one bram ma for shemin sulu ni wun and tamu do yumu kra. Na my yati to be a sulu corona. My soldier suro corona, lawyer o suro corona, malam suro corona, wala wo paste o suro corona, na maye wu, na ya tito biya suro corona, maye wo, na ya tito ina.
Coronavirus, interprété par l'artiste ghanéen Kofi Kinahata dans C'est pas du vent sur RFI.
Est-ce que c'est toi par hasard qui fabrique les tempêtes, les typhons, les tornades et les cyclones? Est-ce que c'est toi qui les lance sur la mer quand ça te fait plaisir?
Pour nous écrire, c'est pas du vent @rfi.fr.
Nous sommes en compagnie de la journaliste Marie-Monique Robin qui vient de publier La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif de santé planétaire aux éditions de La Découverte. Alors pour bien comprendre comment la dégradation de la biodiversité crée ce qu'on appelle un effet boomerang sur la santé humaine, je vous propose d'écouter les explications de Pascal Boireau. Il dirige le laboratoire animal de l'ANSES, l'Agence française de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
Les effets boomerang ont été bien décrits pour un virus qui s'appelle le virus Nipah. Alors effectivement, l'effet boomerang, c'est le phénomène El Niño de réchauffement climatique très loin dans le Pacifique qui va se répercuter jusqu'en Malaisie. En Malaisie, on va faire des feux de forêt pour réduire la forêt tropicale, pour installer des plans de culture, notamment de fruitières, mais pas que, avec
palmiers
à huile. Mmh. Et puis, tant qu'à faire, on va essayer de rentabiliser la terre qui a été défrichée en mettant de l'élevage, et notamment des élevages de porcs, que l'on va construire effectivement avec les bambous qu'on a coupés de la forêt. Et le phénomène El Niño a tellement asséché en 98-99 effectivement la forêt tropicale malaise qu'il y a eu des incendies considérables. Et les espèces animales fuient autant que faire se peut. Ceux qui volent ont un avantage. Et donc, effectivement, les chauves-souris frugivores ont la capacité de parcourir quelques centaines de kilomètres et donc de fuir plus aisément ces grands incendies. Et comme elles sont frugivores, elles se rabattent dans un lieu pour s'arrêter, pour manger et se reposer. Et alors, elles ont trouvé un gîte exceptionnel. Elles ont trouvé des cabanes en bambou où elles pouvaient s'accrocher la tête en bas parce que c'était des bambous, les madriers étaient en bambou. Et donc, elles pouvaient s'accrocher. Et à côté des bambous, en dessous, il y avait les cochons, mais à côté des bambous, il y avait les arbres fruitiers, des dattiers, différents arbres fruitiers. Donc, elles avaient le gîte et le couvert. Et effectivement, et c'est là qu'un virus malheureux est tombé sur le groin des cochons qu'il y avait en dessous, qui s'appelle le virus Nipah, et qui est à l'origine de quelques centaines de morts. C'est un virus redoutablement mortel pour l'homme, qui est passé effectivement chauve-souris, cochon, homme. Il fallait un maillon intermédiaire pour ce virus. Il ne pouvait pas passer directement des chauves-souris frugivores directement à l'homme. Il fallait qu'il passe d'abord par une espèce animale intermédiaire. Il a fallu abattre pratiquement 1 million de cochons pour maîtriser la maladie animale et pour qu'il n'y ait pas de contact à l'homme.
Marie-Monique Robin, on comprend avec cet exemple du virus Nipah comment la déforestation peut finalement, par effet boomerang, créer un virus qui va passer par les animaux, puis arriver vers les humains, ce qu'on appelle des zoonoses. Et la déforestation est pointée par les nombreux scientifiques que vous avez interrogés comme une des causes premières de l'émergence de ces maladies infectieuses.
Oui, alors pour le virus Nipah, que je cite évidemment dans mon livre, la déforestation, elle s'est passée sur l'île de Bornéo. C'est ça qui est intéressant de noter, en fait, pour faire de l'huile de palme, effectivement. Et les feux de forêt ont été encouragés par le phénomène El Niño. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que les chauves-souris, qui sont des animaux extraordinaires. Alors moi, franchement, je ne connaissais rien en chauves-souris avant. Alors, tous les scientifiques que j'ai interviewés, ils travaillent tous, il y en a pas mal qui travaillent sur les chauves-souris. Et quand ils vous décrivent ces magnifiques mammifères volants qui, pour pouvoir faire cette prouesse, ont développé un système immunitaire extraordinaire qui fait qu'ils peuvent héberger des milliers de virus sans être malades. Très rarement, ils peuvent être malades du virus de la rage, ça peut arriver, mais sinon, ils ne sont jamais malades. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on brûle la forêt de Bornéo, les chauves-souris qui sont là, elles doivent s'enfuir. Elles stressent, et ce que racontent mes scientifiques dans le livre, c'est qu'ils ont pu mesurer que quand des chauves-souris sont obligées de s'enfuir, en stressant, elles excrètent tous les agents pathogènes qu'elles ont en elles, soit par les fesses, comme on dit, donc le caca, quoi, soit parce qu'elles urinent, soit parce qu'elles transpirent. Et ils ont même mesuré les hormones du stress dans ces chauves-souris qui se déplacent. Donc, on voit comment, finalement, c'est vraiment l'activité de déforestation qui pousse les chauves-souris à partir et qui va faire ensuite qu'elles vont arriver sur les manguiers, parce que c'était surtout des manguiers qu'il y avait donc sur les côtes malaisiennes. Donc, les chauves-souris en soi, elles ne sont pas dangereuses. On en a besoin même. Parce que, vous savez, on a entendu, puisque les principaux réservoirs de ces agents pathogènes, c'est d'abord les rongeurs, ensuite les primates et ensuite les chauves-souris. Et bien, certains ont dit, c'est simple, on n'a qu'à tous les flinguer, on extermine toutes ces... Et non, évidemment que non, le remède serait pire que le mal, parce que les chauves-souris, on en a besoin pour la pollinisation. Les chauves-souris, elles mangent les insectes, par exemple les moustiques qui transportent le paludisme, vous voyez ? Donc, on a besoin de ces animaux. Voilà.
Et on a besoin de biodiversité parce que la biodiversité renforce notre système immunitaire. Alors ça, c'est un passage passionnant de votre livre où on comprend que finalement, notre microbiome, vous allez nous expliquer ce que c'est, s'enrichit de la biodiversité qui nous entoure.
Alors, on a besoin de deux choses, à deux niveaux. La biodiversité, comme on vient de la décrire, donc dans une forêt tropicale, qui va faire que les agents pathogènes des chauves-souris, par exemple, sont là à bas bruit ou dérangeurs. Et ce que les scientifiques ont mis au jour, c'est un mécanisme qui est totalement méconnu, qui s'appelle l'effet dilution, qui fait que quand on a une grande biodiversité dans une forêt, l'exemple qui est souvent donné, c'est celui de la maladie de Lyme aux États-Unis. C'est deux chercheurs américains qui ont mis au jour ce mécanisme. Ils ont constaté que les réservoirs de la bactérie qui va ensuite infecter les tiques, qui va donc ensuite transmettre la maladie de Lyme, sont les souris à pattes blanches. Donc, vous voyez, c'est très pointu. C'est une espèce de rongeur. Alors, si on veut éviter qu'une tique se nourrisse sur une souris à pattes blanches et donc s'infecte et donc ensuite puisse nous rendre malade, ben, il faut plusieurs conditions. La première condition, c'est qu'il y a une grande biodiversité autour des tiques, parce que quand elles se nourrissent avec leur repas sanguin, elles ne font pas la fine bouche. Elles ne vont pas aller chercher la souris blanche à pattes blanches. Elles peuvent piquer un écureuil qui passe par là, elles peuvent piquer d'autres rongeurs qui ne sont pas réservoirs, n'est-ce pas, de la bactérie. Donc, plus il y a d'animaux divers et variés, plus la chance qu'elle soit infectée, vous voyez, par la bactérie est réduite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet dilution. Alors, en plus, ce qu'on sait, c'est que, ce qu'ont montré ces Américains, d'ailleurs, c'est que quand on casse une forêt, on la fragmente, c'est le mot qu'on utilise, les premiers à partir, c'est les gros mammifères. Les renards vont partir, même les oiseaux, les rapaces, les chouettes, et ce sont eux, ce sont des prédateurs qui vont justement contrôler la population des rongeurs, et notamment des souris à pattes blanches. Et enfin, ce qu'ils ont aussi montré, je trouve ça assez fascinant, c'est que dans la grande famille des rongeurs, il y a deux catégories. Il y a une catégorie de ceux qu'on appelle les spécialistes. Alors, ce sont des rongeurs qui sont liés à des niches écologiques, qui ne mangent que certains types de nourriture. Et quand on casse la forêt pour semer du soja transgénique, par exemple, eh bien, ce sont les premiers à disparaître. Et restent ceux qu'on appelle les généralistes, qui, eux, au contraire, sont contents qu'on mette du soja transgénique à la place de la forêt primaire, parce qu'ils mangent de tout. Ils se reproduisent beaucoup, et ce sont eux qui sont les réservoirs des agents pathogènes, comme la souris à pattes blanches. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on appelle l'effet dilution. Donc, c'est vraiment un mécanisme, c'est-à-dire, c'est pas uniquement, vous voyez, on rêve tous que les animaux ne disparaissent pas. Non, c'est un mécanisme qui fait que quand on a une grande biodiversité, on maintient le risque infectieux à bas bruit. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est la biodiversité dont on a besoin à l'extérieur. Après, on a besoin de la biodiversité, j'en viens à votre question, parce que, alors, pour moi, ça a été le truc le plus dingue que j'ai découvert. Ça, je vous le dis franchement. Ce chapitre-là. Parce qu'évidemment, ça fait un lien direct avec la COVID-19.
Alors, j'avoue que j'ai aussi été fascinée en le lisant. Alors, expliquez-nous ça. Parce que comment est-ce que notre microbiome, finalement, vous allez nous expliquer ce que c'est, nos intestins, notre peau, est infiniment lié à la biodiversité qui nous entoure.
En fait, ce qu'ont montré les chercheurs, c'est que pour développer son système immunitaire, on a besoin, dès qu'on est enfant, tout petit, et c'est même très précis, c'est entre 0, donc déjà dans le ventre de sa maman, et 2 ans, d'un microbiote très diversifié. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Alors, il y a des études qui ont été réalisées aux États-Unis, par exemple, dans des fermes qui font du lait bio. Ils ont constaté que les enfants, comme moi en fait, parce que je suis née dans une ferme comme ça il y a 60 ans, des enfants qui sont nés dans des fermes où les vaches ne sont pas parquées dans des stabulations, évidemment, se baladent. Donc, on peut être en contact avec la vache quoi, facilement. Enfin, je veux dire, voilà, elles sont dans les champs. Enfin, voilà. Ou vous avez du lait non pasteurisé. Donc, ça veut dire qu'il y a quelques microbes qui se traînent par là. Et tant mieux, vous allez voir pourquoi. Et du foin. Eh bien, ces enfants qui sont nés dans des fermes comme ça, ils n'ont jamais d'asthme. Jamais. Alors, ça, c'est une première chose. Alors, ils ont constaté la même chose dans les familles Amish. Alors, c'est marrant parce que quand j'écrivais mon livre, ça faisait écho à une parole de notre président qui avait comparé les écolos comme moi à des Amish. Les Amish, vous savez, ce sont des populations qui vivent surtout en Pennsylvanie, aux États-Unis, qui sont venues d'Alsace et de Suisse il y a 2 siècles et qui continuent de vivre comme il y a 200 ans. Donc, pas d'électricité, ils utilisent des chevaux de trait pour labourer, etc. Eh bien, les études montrent que quand vous prélevez de la poussière dans leur maison, c'est bourré d'allergènes, mais les Amish n'ont pas d'allergie. Ça, c'est la deuxième chose. Donc, en fait, une étude magnifique qui a été conduite en Finlande a décortiqué ce mécanisme qu'on appelle d'ailleurs l'hypothèse de la biodiversité. Je ne peux pas rentrer dans le détail, je pense, de l'étude parce que ça serait trop long, je pense.
Oui.
Mais en tout cas, ce qu'elle montre, c'est que pour avoir un bon système immunitaire, il faut être exposé tout petit à ce qu'on appelle en anglais les good friends, les vieux amis, old friends. Ce sont les microbes, les parasites, enfin toutes les bactéries. Et ça veut dire donc dans l'environnement. Donc, avoir de la verdure autour de soi, des champs, évidemment, sans pesticides si possible, et y compris dans sa maison, avoir des bactéries et être confronté à ça. Ça permet d'avoir un très bon système immunitaire. Ça, c'est la première chose. Et qui explique en partie qu'en Afrique, par exemple, il n'y a pas d'allergie. Hein, c'est l'hypothèse de la biodiversité. Mais s'ajoute à ça une autre, deuxième hypothèse, mais qui n'exclut pas la première. Elle est complémentaire. Les scientifiques ont constaté que quand les enfants tout petits sont confrontés à des vers intestinaux, alors on ne parle pas de ténia de 2 mètres de long, là, on parle des oxures, vous savez, les petits vers intestinaux qu'on avait, moi j'en ai eu quand j'étais petite, après on déparasite maintenant, mais ces vers intestinaux tout petits ont développé, les parasitologues vous en parlent avec, c'est pareil. Hein,
Beaucoup d'enthousiasme,
ont développé, on appelle ça les helminthes dans le langage un peu plus scientifique, ont coévolué avec les humains. Donc, ils ont besoin pour vivre d'être dans les intestins des humains, d'accord ? Ou des mammifères, mais là, on parle des humains. Et donc, quand ils pénètrent dans l'intestin d'un enfant, eh bien, grâce à la coévolution avec les humains, ils ont bloqué le système qui fait que, dès qu'un ver rentre dans un intestin, normalement, il y a un système qui se met en place, notamment, il y a des cellules qu'on appelle les TH2, enfin bref, qui font en sorte que le parasite soit expulsé. Eux, ils dégagent une protéine qui bloque cette cellule. Or, cette cellule, elle est liée à tous les excès inflammatoires. C'est-à-dire qu'en fait, en étant tout petit exposé à des oxures, on renforce son système immunitaire et on se met à l'abri des orages inflammatoires. On n'a pas d'allergie et on peut aller plus loin, on risque moins l'obésité, qui est aussi un problème lié au microbiote, n'est-ce pas ? Et ça serait l'une des explications qui permettrait de comprendre pourquoi en Afrique aujourd'hui, en Afrique rurale, pas dans les villes, parce que dans les grandes villes d'Afrique, eh bien, les habitants, ils ont le même microbiote que nous, ils ont la même flore intestinale, c'est-à-dire très, très pauvre, parce que justement, pas confrontés à la biodiversité. Eh bien, en Afrique rurale, la COVID-19 fait très peu de morts. Voilà. Ça, c'est absolument incroyable, quoi, vraiment. Et on comprend aussi pourquoi les facteurs de comorbidité de la COVID-19 sont liés. Vous savez, ce sont des maladies chroniques. Hein, quand on a du diabète, quand on a de l'obésité, quand on a l'hypertension, eh bien, ces maladies chroniques que nous connaissons tous, sont aussi liés à un déséquilibre du microbiote, donc de la flore intestinale. Voilà.
Voilà, donc on comprend bien que quand il y a de la biodiversité riche autour de nous, on développe plus notre système immunitaire que quand on est dans un contexte aseptisé. Malheureusement, nous vivons de plus en plus en ville, nous vivons de plus en plus éloignés de cette nature, et du coup, ça a des conséquences importantes, et on le voit aujourd'hui avec la pandémie.
Tout à fait, bien sûr. Et puis, c'est ça qui était assez étonnant pour ce qui est des maladies chroniques, hein, aussi de comprendre comment finalement tout se rejoint, en fait. Et Serge Morand m'avait bien longuement expliqué, je le cite dans le livre, hein, que l'humanité a connu 3 grandes transitions épidémiologiques. Vous savez, quand les Homo sapiens est sorti d'Afrique, voilà. Ensuite, au moment du néolithique, quand les humains ont développé l'agriculture et domestiqué les animaux, là, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu une grosse transition épidémiologique avec de nouvelles maladies qui étaient provoquées par les animaux qu'on domestiquait. Ensuite, avec les routes de la soie, tout le commerce international, la colonisation des Amériques, l'esclavage qui a fait qu'on a commencé à balader et à déplacer les agents pathogènes en suivant les routes commerciales. Et puis là, aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est qu'on est dans la 4e transition épidémiologique qui est caractérisée par l'émergence de nouvelles maladies infectieuses dues à la destruction de la biodiversité et par ce que les scientifiques dans mon livre appellent une pandémie silencieuse. Et ils aimeraient bien qu'on en parle autant que de la COVID-19, qui sont toutes ces maladies chroniques qui tuent beaucoup, et beaucoup plus que la COVID-19 d'ailleurs, les cancers, les maladies neurodégénératives, enfin, toutes ces pathologies de civilisation, comme on l'a dit. Hein.
Maladies cardiovasculaires,
etc. Et en fait, ces deux grandes pandémies, infectieuses et maladies chroniques, se rejoignent à travers la COVID-19 comme un exemple, quasiment un archétype de ce qui nous attend.
Alors, le rôle des animaux domestiques qui servent de pont épidémiologique est aussi bien documenté. Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Et la grippe aviaire est de retour en Europe, en Afrique et en Asie depuis la fin 2020. C'en est un bel exemple. Alors, c'est la deuxième fois en 4 ans que la France y fait face. Elle n'est pas seule à être concernée. Bonjour Maëlle Roudot.
Bonjour.
Vous êtes stagiaire au sein de C'est pas du vent et vous vous êtes penchée sur cette épidémie. Alors aujourd'hui, quelle est son ampleur ?
Eh bien, les cas de grippe aviaire se multiplient à travers le monde. Au Japon, en Inde, mais aussi en Afrique et dans toute l'Europe. La semaine dernière, le Sénégal a vu mourir 750 pélicans, alors que l'État indien du Maharashtra enregistrait plus de 300 oiseaux morts en une seule journée. En France, plus de 400 foyers de grippe aviaire sont apparus depuis novembre, majoritairement dans le sud-ouest. Mais le virus H5N1 n'est pas nouveau. Il a été repéré pour la première fois à Hong Kong en 1997 et plusieurs épidémies se répètent depuis le début des années 2000. Selon les syndicats d'exploitants agricoles en France, la situation actuelle est hors de contrôle.
Alors, quelles solutions sont aujourd'hui mises en place pour endiguer la propagation de ce virus ?
Des mesures drastiques sont prises dans les élevages, qui sont le centre de l'épidémie. Il suffit d'un oiseau infecté pour que tous les autres soient contaminés. Alors, pour ne pas transmettre le virus à leurs canards ou à leurs poulets, les éleveurs désinfectent leurs chaussures, leurs véhicules et l'ensemble de leur matériel. Les volailles sont quant à elles confinées dans les bâtiments afin d'éviter tout contact avec les oiseaux extérieurs, notamment les oiseaux migrateurs qui transportent le virus. Mais ces mesures n'ont pas suffi et des foyers de grippe aviaire sont apparus. Dans ce cas, les oiseaux des élevages les plus proches doivent être abattus préventivement. C'est aujourd'hui la principale stratégie pour endiguer l'épidémie. En France, 2 millions d'oiseaux d'élevage ont déjà été abattus.
Alors, la grippe aviaire n'est pas une maladie nouvelle, mais l'épidémie actuelle se propage particulièrement rapidement. Pourquoi ?
Eh bien, Anne-Cécile, c'est l'élevage intensif qui accélère la propagation du virus. En effet, il rassemble dans un endroit clos et restreint un grand nombre d'oiseaux à faible variabilité génétique, et le virus circule alors plus facilement. Les éleveurs sont eux aussi concernés, les cas sont rares, mais il y a eu des morts. En janvier 2017, en Chine, 80 personnes sont décédées de la grippe aviaire. Pour le moment, la transmission du virus ne se fait que de l'animal à l'homme, mais l'OMS nous alerte. Le virus pourrait évoluer et devenir transmissible d'homme à homme, et cela pourrait créer une nouvelle pandémie, similaire à la Covid-19.
Marie-Monique Robin, cette grippe aviaire, on en parle beaucoup moins que la Covid-19, parce que pour l'instant, elle n'affecte que, j'ai envie de dire, les élevages de volailles et pas les humains, même s'il y a déjà eu des cas d'affection d'humains dans l'histoire. Mais en même temps, c'est emblématique de la problématique des maladies infectieuses.
Oui, ce virus H5N1, on le connaît bien, vous l'avez dit, 1997, il est très peu transmissible à l'homme. Donc on a craint ensuite, en 2003, ça a eu d'ailleurs un gros délire, on pensait que ça allait être de nouveau la grippe espagnole, vous savez, de 1918, qui a tué 10% de la population mondiale, etc. En fait, c'est un virus qui passe très difficilement à l'homme et qui, pour l'instant, n'est pas du tout transmissible aux humains. Alors, moi, ce que je trouve absolument lamentable dans cette histoire, c'est quand même le fait que, effectivement, c'est encouragé par l'élevage intensif. C'est clair, quoi. Hein. Voilà. Et que la réponse qu'on a pour ça, toujours, c'est la biosécurité. On abat massivement des canards, des poulets, etc. Donc, et moi, dans mon livre, vous verrez, plusieurs scientifiques qui travaillent sur la grippe aviaire disent que le problème principal qu'on a aujourd'hui, c'est les élevages intensifs qui sont des vraies boîtes de pétri. Vous savez, donc vous balancez un agent pathogène là-dedans, un virus grippal et...
Les boîtes de pétri, c'est les petites boîtes transparentes dans lesquelles on fait les cultures de gènes dans les laboratoires.
Voilà, c'est ça, de cellules, etc. Alors, il faut savoir aussi que pour la grippe aviaire, ça part des oiseaux sauvages. Ensuite, ça peut se transmettre aux oiseaux domestiques. Bon, ça, c'est une première chose. Et si les domestiques sont élevés industriellement, ça c'est vraiment un gros problème parce que le virus va se multiplier et acquérir de la virulence. Après, pour que ça passe à l'homme, ça ne peut pas. Il faut que ça passe par une case intermédiaire qui est souvent le cochon. C'était la grippe H1N1 qui avait commencé en 2009 au Mexique. Et là, tout le monde avait dit, les scientifiques avaient dit, attention, les pays où il y a des élevages intensifs de poulets et de cochons sont dangereux. Enfin, dangereux. Voilà. C'était le cas du Mexique, par exemple, ou de la Thaïlande, il y a les deux. Parce que le porc partage 95% de nos gènes. C'est vraiment un proche parent. Alors, moins que le chimpanzé, 99%, mais quand même 95%. Donc, tous mes scientifiques me disent aussi que la meilleure entrée pour qu'un pathogène, un virus qui vient d'un animal sauvage, passe à l'homme, c'est qu'il transite par le porc. Ça, c'est la meilleure entrée. Voilà. Donc, il faut qu'on revoie clairement nos modes d'élevage des animaux, parce que ça fait partie des choses qui sont dites par les scientifiques. Il faut protéger la biodiversité dans les forêts tropicales, d'accord, mais il faut aussi arrêter d'entasser tous ces animaux qui vivent dans des conditions atroces et qui, en plus, sont dans un mauvais état sanitaire, parce que c'est ça aussi, c'est la vérité, et arrêter de les balader sur toute la planète. Dans mon livre, on découvre comment la Thaïlande, qui est un gros producteur de poulet, exporte des poussins d'un jour par bateau partout dans le monde, n'est-ce pas ? Et c'est comme ça que la grippe, d'ailleurs, était arrivée au Nigeria par des poussins infectés. Donc, il faut qu'on arrête ça, tout simplement, et qu'on refasse de la… Enfin, évidemment, c'est ce que je dis depuis des années dans d'autres ouvrages, l'agriculture biologique de proximité, et voilà.
Il faut globalement réorienter les relations de nos sociétés avec la nature. On en parle juste après l'anglais Peter Gill qui nous chante « Pollution ».
If you visit American City, you will find it very pretty. Just two things to be aware. Don't drink the water and don't breathe the air. Pollution, pollution. They've got smog and sewage and mud. Turn on your tap and get hot and cold running crud. See the halibut and the sturgeons being wiped out by detergents. Fish gotta swim and birds gotta fly, but they don't last long if they try. Pollution, pollution. You can use the latest toothpaste. There rinse your mouth out with industrial waste. Just go out for a breath of air. You'll be ready for Medicare. City streets are really quite a thrill. If the hoods don't get you, the monoxide will. Pollution, pollution. Wear a gas mask and a veil. Then you can breathe long as you don't inhale. Lots of things there that you can drink, but stay away from that kitchen sink. Breakfast garbage they throw into the bay. They drink as lunch down in San Jose. So go to the city, see the crazy people there. Like lambs to the slaughter, they're drinking the water and they're breathing the air.
Pollution par Peter Gill dans Ses pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de la journaliste Marie-Monique Robin qui vient de publier La fabrique des pandémies, préserver la biodiversité, un impératif de santé planétaire aux éditions de La Découverte. Alors comment fait-on du coup pour endiguer ces épidémies de maladies infectieuses et éviter, pour reprendre l'expression du biologiste canadien Daniel Brooks que vous avez interrogé pour votre livre, une mort à petit feu de l'humanité? Eh bien, peut-être faudrait-il investir dans la prévention, surtout que ça coûte moins cher, finalement. C'est ce qui ressortait d'un rapport publié par l'IBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Benjamin Roche est directeur de recherche à l'IRD pour le développement et il a participé justement à ce rapport.
Le coût des pandémies, de cette pandémie-là et du Covid-19 est estimé à plus... Ça se chiffre en milliers de milliards de dollars. Donc, c'est vraiment un impact économique absolument dramatique. Et en même temps, si on regarde effectivement les différentes options qu'on a pour limiter l'émergence des pandémies, ça va passer par de la protection de la biodiversité, ça va passer par un meilleur traçage du commerce de la faune sauvage, ça va passer par potentiellement aussi des taxations sur des activités à fort risque pandémique comme l'urbanisation, la déforestation, le commerce de certaines espèces sauvages un peu particulières, à fort risque pandémique. Donc, si on comprend tout ça, si on additionne tout ça, le coût de la prévention, ça a été calculé d'être à peu près de l'ordre de 1% de ce que coûte cette pandémie actuelle. Autrement dit, le retour sur investissement entre la prévention de la pandémie ou le coût économique d'essayer de la contrôler est sans commune mesure, sans parler, bien sûr, de toutes les conséquences sanitaires, sociales, etc.
Oui, mais alors comment on fait ? Parce que tout ce que vous préconisez là, ça fait des décennies qu'on l'entend de la part de scientifiques qui ne faisaient pas encore partie de l'IBES parce que l'organisme scientifique n'existait pas. Mais on le sait depuis longtemps qu'il faut arrêter la déforestation, qu'il faut lutter contre le trafic de la faune sauvage, mais pour autant rien ne se passe. Et cet argument de dire que ça coûte moins cher de prévenir que de guérir, ça a déjà été utilisé pour le dérèglement climatique. On pense notamment au rapport Stern qui avait chiffré le coût de l'inaction. Et puis bon, finalement, on voit bien que ça ne sont pas des arguments qui... sont efficaces ?
Alors, je pense que c'est quelque chose qui est vrai pour... effectivement, ça manque d'efficacité quand on pense au changement climatique, à la pollution, à la couche d'ozone, etc. Mais aussi parce que ce sont des crises dont les conséquences sont à beaucoup plus moyen, voire long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent de façon complètement immédiate. Ce qu'on espère, c'est que la crise du Covid-19, elle aura au moins servi à ça, c'est justement de prendre conscience de l'importance de cette crise environnementale. Parce qu'une pandémie, aujourd'hui, on le voit, ça a un coût, c'est extrêmement violent, c'est extrêmement explosif, et c'est un coût humain sans commune mesure. Il y a déjà eu plus d'un million de morts. C'est un coût économique absolument astronomique, sans parler de toutes les conséquences sociales. Donc, on espère que cette crise du Covid-19 pourrait être, en gros, sonner le réveil pour que ce soit la dernière.
Marie-Monique Robin, c'est ce que tous les scientifiques que vous avez interrogés dans votre livre appellent de leur vœu, finalement.
Oui, Benjamin Roche fait partie de mon livre aussi, bien sûr, je l'ai interviewé, et notamment sur la grippe, qu'il connaît bien. Enfin, il a raison. Si on avait une vision globale, c'est ce que d'ailleurs souhaitent les chercheurs, hein, une vision holistique, comme on dit, hein, c'est-à-dire qu'on comprenne que la santé des écosystèmes, des animaux et des humains, tout est interconnecté. Donc, on parle de One Health, hein, une seule santé, Planetary Health, santé planétaire. Bon. Mais si on faisait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, par exemple, décider que c'est fini, on n'importe plus de soja transgénique d'Argentine et du Brésil pour nourrir nos poules, nos vaches et nos cochons des élevages industriels. Parce que quand on mange un poulet pas bio ici, on contribue à la déforestation de l'Amazonie au Brésil, n'est-ce pas ? On interdit l'importation d'huile de palme pour mettre dans nos moteurs, n'est-ce pas ? Je vous rappelle que Total a été autorisé dans le sud de la France, près des Bouches-du-Rhône, dans sa raffinerie, à importer 500 000 tonnes d'huile de palme d'Indonésie. Eh bien, c'est lamentable. Voilà. Si on prend des mesures comme ça, évidemment, il faut aider les pays qui sont directement concernés à trouver une solution pour des revenus alternatifs, évidemment. Hein. Mais c'est du win-win-win, comme on dit en anglais. C'est gagnant-gagnant-gagnant. C'est-à-dire que ce sont des mesures qui profitent à la fois à la protection du climat, parce que ce sont les mêmes causes qui contribuent à la destruction de la biodiversité, qui évidemment contribuent au dérèglement climatique. C'est bon pour la biodiversité et c'est bon pour la santé. Donc franchement, il faudrait avoir une vision qui ne soit pas uniquement une vision à court terme, une vision à moyen et long terme. Et ça, j'espère qu'on pourra y arriver, quoi, parce que sinon, excusez-moi, là, je ne vais pas casser le moral de vos auditeurs, hein, mais ben, sinon, moi, ce que j'ai entendu de ces 62 scientifiques, c'est que nous allons disparaître, l'humanité, hein, c'est tout. Alors, je ne vous dis pas ça demain, hein, c'est ce que dit Daniel Brook, ça va être une mort à petit feu. C'est quoi une mort à petit feu ? Ça veut dire des foyers épidémiques de Ebola qui peut d'ailleurs se transmettre, il n'est pas exclu qu'il mute, ce fameux virus Ebola pourrait être transmis de voie aérienne, par voie aérienne, vous imaginez ce que ça voudrait dire. Des maladies infectieuses avec des foyers qui vont émerger en permanence, qui vont évidemment peser énormément sur les systèmes de santé humaine et vétérinaire. On voit déjà là qu'on est au bord de la rupture. Et j'insiste, pour un petit virus qui ne tue que 1% de la population, je ne dis pas ça par mépris pour les morts, hein, mais c'est, sans parler de ce qui va se passer avec le dérèglement climatique, etc., où d'ailleurs les deux sont liés, hein, parce qu'on voit aussi que de nouvelles maladies vont émerger en raison du dérèglement climatique. On n'a pas parlé de l'Arctique ou les virus qui sont pris dans le permafrost depuis la nuit des temps pourraient de nouveau faire surface, etc. Donc, c'est assez étonnant de voir quand même toujours cette espèce d'aveuglement de nos politiques, hein, d'arriver à avoir une vision globale et à moyen et long terme pour trouver des solutions qui soient durables et qui soient de vraies solutions, quoi. Parce que sinon, nous allons avoir un masque dans notre sac tout le temps, maintenant, parce que c'est ce qu'ils me disent, hein. Ère de confinement chronique, c'est ça que ça veut dire. On va nous confiner, nous déconfiner, nous reconfiner. Voilà. Et puis, sans parler de ce que ça veut dire pour l'avenir de l'humanité, mais des jeunes, de nos enfants, quoi, hein. C'est quoi cet avenir qu'on leur prépare ? Donc voilà, j'espère véritablement que ces travaux scientifiques qui sont sérieux vont servir à éclairer la chandelle de nos politiques. Voilà.
Et pour partager ces messages de manière encore plus large, Marie-Monique Robin, vous avez débuté le tournage d'un film dont voici un extrait. C'est un dialogue entre le chercheur Rodolphe Gosselin, qui travaille au Centre d'études de la biodiversité amazonienne en Guyane, et l'actrice Juliette Binoche.
Depuis que Homo sapiens est sorti d'Afrique, il y a 180 000 ans, il n'a cessé d'échanger des parasites avec les animaux sauvages et domestiques.
Semblant de vie, reflet de mort, miroir tendu à nous autres humains, notre puissance, nos limites.
Marie-Monique Robin, vous faites appel au public pour participer justement au budget de ce film.
Oui, mais ça fait, je commence à le tourner d'ailleurs, là, bientôt. Hein, donc, c'est un documentaire qui s'appelle de la même manière, hein, où je vais rencontrer 20 scientifiques avec Juliette Binoche, qui est associée à ce film. Elle n'y connaît rien, donc ça va être intéressant aussi de voir comment elle va faire le lien entre le public et ses scientifiques. Il y a beaucoup de partenaires hein, pour ce film, et nous avons lancé un crowdfunding, effectivement, avec une bande-annonce que je vous invite à regarder, parce que l'Office français de la biodiversité est partenaire. Toutes les institutions de recherche françaises sont partenaires, cofinancent le film, l'INRAE, l'IRD, le CIRAD, l'UNESCO est partenaire, et nous avons fait ce trailer au Muséum d'Histoire Naturelle, dans la salle, évidemment, de la Grande Galerie. Et je vous invite à le regarder, c'est sur m2rfilm.com. Donc, on a un principe qui est celui que je pratique depuis 10 ans, hein, c'est pré-achat de DVD, c'est comme le panier de la MAP, vous achetez à l'avance le DVD pour permettre au film de se réaliser dans de bonnes conditions. Et c'est 20% du budget, donc il faut que ça continue, voilà. Et j'invite tout le monde à soutenir ce film. Le but étant qu'à terme, ce film soit libre d'accès dans toutes les langues de l'UNESCO, sur un portail commun qui réunirait donc tous les partenaires, une fois qu'il sera passé sur les télés. Voilà,
c'est ça. Voilà, parce que c'est un livre, déjà, je le disais en introduction, de salubrité publique, donc ça sera pareil pour le film. Merci beaucoup, Marie-Monique Robin, d'être passée dans C'est pas du vent.
Merci, au revoir.
Merci à Maëlle Roudeau et à François Porcheron pour la préparation et la réalisation de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
RFI Planète Radio, en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement, lance l'édition.